sac. Et l'image d'après, il repart avec le sac sur le dos. D'accord ? Donc, vraiment laisser, pas faire semblant. Laisser librement, joyeusement et avec confiance. Parce que c'est vrai, nous aimons organiser, nous aimons planifier, réfléchir, connaître à l'avance les conséquences de nos choix, avoir des agendas bien remplis. L'Évangile nous invite à nous laisser surprendre par la rencontre inconnue. L'Évangile nous invite à choisir le trajet à pied, plutôt qu'en train ou en voiture. Car si nous marchons, et il ne s'agit pas de courir, mais bien de marcher, nous prendrons le temps de voir ceux qui croisent notre chemin, à la sortie du culte, dans la rue, dans notre immeuble, dans nos familles, dans tous nos lieux de vie. Nous pourrons être attentifs, nous pourrons les écouter, partager leur joie et leur peine. Nous pourrons être des pêcheurs d'hommes. Et enfin, je termine par là et c'est peut-être le plus important, ne soyez jamais préoccupés du résultat. Le résultat, c'est l'affaire de Jésus et de lui seul. Nous ne sommes pas appelés à convertir les gens. Nous sommes appelés à annoncer l'Évangile. C'est dans l'humilité et la simplicité d'une rencontre au bord d'un lac que l'Évangile se joue. Il ne se joue pas dans le spectaculaire, ni dans un discours interminable et argumenté. C'est par la seule présence, c'est par les gestes, les paroles du Christ que Jésus donne la vie. Il s'invite dans notre quotidien. Il s'invite au lever de notre lit, devant notre four dans la cuisine. Il s'invite aux côtés de nos enfants quand on passe du temps avec eux. C'est avec les autres que nous sommes appelés à répondre à cette invitation. Car nous ne sommes pas seuls, nous le vivons en Église. Vous remarquez, Jésus appelle les personnes deux par deux. Pas seul. Suivez-moi, leur dit-il, et non pas suis-moi. Dès le début, Simon, qui deviendra Pierre, est associé à un autre. Pour accomplir sa mission, Dieu a besoin des talents de tous, des talents conjugués aussi. Pour faire comprendre autre chose, comment ça s'appelle ça ? Paul, une parabole. Alors Pierre et son frère André étaient pêcheurs de poissons, et Jésus leur propose de devenir pêcheurs d'hommes. Il aurait pu faire le même jeu de mots pour les deux autres frères, Jacques et Jean, qui, eux, ne pêchent pas, mais réparent leur filet. Jésus aurait pu leur dire, « Venez, je vais vous faire réparateurs d'hommes. » Parce que oui, c'est un peu aussi cela. Cela fait partie du projet de Dieu que d'aider à panser les blessures de notre prochain. Ils étaient quatre pêcheurs de poissons, et Jésus leur apprendra à devenir des pêcheurs d'hommes et de femmes. Ce métier est tout nouveau, mais en même temps, il correspond à ce qu'ils faisaient. Et cela nous montre quelle est la conversion à laquelle Jésus nous appelle. Suivre Jésus, comme on en a parlé tout à l'heure, ce n'est pas changer du tout pour le tout. Mais c'est plutôt regarder dans une nouvelle direction en restant qui l'on est. Rester soi-même avec des objectifs nouveaux, des priorités différentes. Les quatre frères étaient pêcheurs de poissons, ils restent des pêcheurs, mais ils deviennent des pêcheurs d'hommes. À mon avis, ils ne devaient pas être très à l'aise au début, parce que rien ne leur disait qu'ils seraient assez doués pour faire ce joli métier. Jésus ne leur a pas fait passer un entretien d'embauche. C'est normal, parce que la conversion n'est pas une affaire de dons. Plusieurs d'entre nous ont des dons, et même chacun d'entre nous. Il y a ceux qui sont musiciens, ceux qui sont chercheurs en nanotechnologie. Chacun est doué dans un domaine particulier. Tout le monde ne peut pas être doué en gym comme Chloé, en piano comme Clémentine, ou en dompteur de serpents comme Théotime. Mais tout le monde est appelé à suivre Jésus, comme il appelle ce jour-là Pierre, André, Jacques et Jean. Au moment où cette histoire a été racontée, on pensait que l'appel à être un serviteur de Dieu était réservé à des personnes bien comme il faut, bien savantes. des personnes choisies, triées sur le volet. Avec Jésus, nous découvrons que la plus simple, comme la plus cultivée des personnes, la plus riche, comme la plus pauvre, le juif comme le romain, que tous, que chacun est appelé à se convertir et à suivre Jésus, et à être embauché pour cet étrange métier de pêcheur d'hommes. Dans cette histoire de Matthieu, nous sommes à un moment charnière de l'Évangile. Jean le Baptiste a été arrêté, c'est ce que Cécile a lu au début du texte. Est-ce que vous vous rappelez de Jean le Baptiste ? On en a parlé au dernier culte famille. C'est ce Jean qui appelait à la repentance et à la conversion. Il annonçait le ministère de Jésus qui allait baptiser avec deux. Comment il allait baptiser Jésus ? Jean y baptisait comment ? Avec de l'eau, et il annonce Jésus qui va baptiser avec l'Esprit Saint. Vous vous rappelez de ce Jean qui était un peu spécial ? Qu'est-ce qu'il avait de spécial ? Comment il s'habillait ? Avec des vêtements en poil de chameau. Vous vous rappelez ce qu'il mangeait ? Des sauterelles et du miel sauvage. Et à ce moment-là, voici que Jésus se retire loin des siens, près de Capernaum, à côté de la mer de Galilée. On nous dit dans le texte sur les territoires de Zabulon et de Nephtali. Alors, à l'époque, Capernaum est considéré comme un lieu de ténèbres, comme le rappelle le texte d'Ésaïe qui a été lu. C'est un lieu habité par des païens, des gens pauvres, de simples pêcheurs de poissons. C'est dans cet endroit excentré et humble que pourtant le ministère de Jésus va commencer. On lit dans le texte « Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre et de la mort, une lumière resplendit ». C'est cette même lumière que l'on a fêtée à Noël, qui a mis en mouvement les mages et qui va maintenant resplendir au bord du lac pour Pierre, André, Jacques et Jean. Jésus commence à constituer avec ses frères son groupe des 12. Des 12 quoi ? Disciples. Les jeunes, il faut se réveiller là. Il n'y a que les grands qui répondent. Alors 12, est-ce que vous connaissez... Ah maintenant, les grands... Les jeunes. Un autre nombre, 12, est utilisé à plusieurs endroits dans la Bible. 12 quoi encore ? Il y a 12 disciples, il y a 12 quoi ? Est-ce que vous savez ? Alors, 12 apôtres, 12 disciples, c'est la même chose, mais c'est bien. Dans l'Ancien Testament, on parle des 12 tatas d'Israël. 12 Félix, 12 tribus. 12 tribus d'Israël. Alors ça, c'est pour expliquer ce même, on garde ce 12, hein, pour dire que Jésus, il s'inscrit dans cette histoire du peuple d'Israël. Et 12, c'est aussi un chiffre qui manifeste l'universalité de la mission de Jésus. Alors donc, Jésus décide de commencer loin de Jérusalem, loin de l'institution religieuse et sociale. Il s'adresse à de simples pêcheurs en pleine activité. Et dans le déroulement de cette histoire, on retrouve un déroulement type que l'on retrouvera à bien d'autres endroits dans les évangiles. On nous dit « Jésus marche ». Ensuite, on nous dit « Jésus voit ». Puis Jésus a... Et à la fin, qu'est-ce qui se passe ? Ils le suivirent. Et ce déroulement, on va le retrouver à beaucoup d'autres endroits. Au chapitre 8, par exemple, Jésus vit la belle-mère de Pierre, qui était malade et couchée. Il lui toucha la main, elle se leva et elle se mit à le servir. Au chapitre 9, il vit Matthieu. Il lui dit « Suis-moi ». Il se leva, il le suivit. Notre conversion, notre vocation ne dépend pas de nous, ne dépend pas de notre propre recherche, ni de notre intelligence ou de nos mérites, ni de nos capacités et même ni de nos prières. C'est avant tout et d'abord un appel que l'on reçoit, qui nous est adressé par celui qui nous a vus avant même que nous ne pensions à lui. Jésus vient nous surprendre dans notre quotidien. Tout comme la lumière qui s'est levée sur ceux qui étaient assis dans les ténèbres à Nephtali, il vient dans notre humble demeure et la lumière resplendit. Alors, quel est le cœur de cette conversion? L'image de la pêche. Qu'est-ce que c'est la pêche? Des poissons que l'on tire de l'eau. Peut exprimer le cœur de cette mission. Ramener les hommes de la mort à la vie. Alors vous allez me dire, pour les poissons, c'est le contraire. On les tire de la vie vers la mort, n'est-ce pas? Mais, parce qu'il y a toujours un mais, à l'époque de Jésus, la mer était considérée comme un lieu de mort. La mer et tout ce qu'elle contenait représentait la mort. C'était l'inconnu, c'était la peur avec les tempêtes. Tout ce qui avait un rapport avec la mer, c'était la mort pour ces gens-là. Vous connaissez Jonas? Vous connaissez l'histoire de Jonas, hein, qui se retrouve dans la mer, jeté à la mer du bateau, et puis ensuite tiré de la mort, tiré de la mer par, voilà, par un gros poisson. Alors il n'y avait pas de baleine à l'époque, on dit parfois des baleines, tu as raison, mais en fait c'était un gros poisson. Également pour le baptême. Vous savez, avant le baptême, nous on ne le fait plus dans notre église, mais avant on allait entièrement dans l'eau. Et c'était ça ce symbole. On était dans l'eau comme mort et on ressortait de nouveau vivant, de la mort vers la vie. En lisant l'histoire de Matthieu, et on en a parlé avec les enfants, nous sommes aussi surpris par la brièveté de la scène. Sur une simple parole de Jésus, les quatre vont lâcher leur filet, leurs parents, et vont le suivre sans aucun état d'âme, sans se poser aucune question, sans s'inquiéter de la suite. Alors ici, il nous est manifesté la radicalité du changement de vie auquel nous sommes appelés. Alors pour nous aujourd'hui, il ne s'agit pas de quitter femme, mari, enfant, n'est-ce pas, travail, et de nous retirer loin du monde, mais il s'agit de répondre immédiatement et sans concession à l'appel qui nous est adressé. Il s'agit de répondre sans regarder derrière soi avec nostalgie, et il s'agit de répondre sans se poser des questions sur notre avenir avec inquiétude. Il s'agit de dire oui. Oui, pour que Jésus transforme nos vies. Oui, pour qu'il nous conduise vers les autres. Oui, pour qu'à notre tour, après avoir été péchés, nous devenions pécheurs. Et l'obéissance à Jésus ne souffre pas de délai, ni de tergiversation. Je vous raconte une petite histoire, vraie. Il y a deux dimanches en arrière, j'ai prêché à l'église baptiste. À la sortie, une jeune femme, une jeune maman, est venue me dire merci. Pas pour ce que j'avais dit spécialement au culte, mais elle m'a remerciée pour ce qui s'était passé l'année dernière au culte de rentrée ici. Ce jour-là, il n'y avait pas de culte à l'église baptiste et elle s'est dit, bah tiens, je vais aller au culte chez les réformés. Elle était dans une période de questions et elle se demandait si elle devait s'engager dans son église, suivre Jésus et demander le baptême. Pour notre culte de rentrée, on a parlé d'engagement. C'était le moment où on reconnaissait les ministères des catéchètes, des prédicateurs. Et elle a entendu pendant notre culte, « Va, ne crains pas. » Quand elle est ressortie, c'était clair. Le lendemain, elle appelait son pasteur, Joël, qui était là dimanche dernier, et elle lui a dit, « Je veux demander le baptême. » Dans son chemin de foi, nous avions été l'outil déclencheur pour sa décision personnelle aux côtés du Christ. Alors, dans ces moments de décision, malheureusement, le plus souvent, notre raison nous rattrape. Suivre Jésus et devenir pécheur d'homme, est-ce que je vais y arriver? Et comment, au fait, je dois le suivre? Qu'est-ce que fait Jésus pour être pécheur d'homme? Vous vous souvenez des différents verbes? Il marche, il voit, il appelle. C'est à la portée de tout le monde, ça. Marcher, regarder, appeler. Et je crois qu'en effet, avec l'aide du Christ et de l'Esprit, nous pouvons nous mettre en marche à notre tour. Nous pouvons essayer en tout cas de ne pas prendre racine. Il n'y a pas pire chose que de prendre racine. Nous pouvons apprendre aussi à lâcher nos filets, si lourdement chargés de pierres inutiles. Vous savez, ces boulets qu'on traîne. Vous voyez bien de quoi je veux parler, hein ? Ces espèces de boulets qui nous chargent et qui nous plombent dans nos vies. Laissez ce qui nous encombre, mais le laissez vraiment. J'ai un petit dessin humoristique à ce propos que j'aime beaucoup, que j'avais collé dans mon cantique. Quelqu'un qui a un gros sac chargé de pierres inutiles, de boulets, qui s'approche de la croix, qui dit « Seigneur Jésus, je te confie mes fardeaux, prends-les. » Il pose son sac. Et l'image d'après, il repart avec le sac sur le dos. D'accord ? Donc, vraiment laisser, pas faire semblant. Laisser librement, joyeusement et avec confiance. Parce que c'est vrai, nous aimons organiser, nous aimons planifier, réfléchir, connaître à l'avance les conséquences de nos choix, avoir des agendas bien remplis. L'Évangile nous invite à nous laisser surprendre par la rencontre inconnue. L'Évangile nous invite à choisir le trajet à pied, plutôt qu'en train ou en voiture. Car si nous marchons, et il ne s'agit pas de courir, mais bien de marcher, nous prendrons le temps de voir ceux qui croisent notre chemin, à la sortie du culte, dans la rue, dans notre immeuble, dans nos familles, dans tous nos lieux de vie. Nous pourrons être attentifs, nous pourrons les écouter, partager leur joie et leur peine. Nous pourrons être des pêcheurs d'hommes. Et enfin, je termine par là et c'est peut-être le plus important, ne soyez jamais préoccupés du résultat. Le résultat, c'est l'affaire de Jésus et de lui seul. Nous ne sommes pas appelés à convertir les gens. Nous sommes appelés à annoncer l'Évangile. C'est dans l'humilité et la simplicité d'une rencontre au bord d'un lac que l'Évangile se joue. Il ne se joue pas dans le spectaculaire, ni dans un discours interminable et argumenté. C'est par la seule présence, c'est par les gestes, les paroles du Christ que Jésus donne la vie. Il s'invite dans notre quotidien. Il s'invite au lever de notre lit, devant notre four dans la cuisine. Il s'invite aux côtés de nos enfants quand on passe du temps avec eux. C'est avec les autres que nous sommes appelés à répondre à cette invitation. Car nous ne sommes pas seuls, nous le vivons en Église. Vous remarquez, Jésus appelle les personnes deux par deux. Pas seul. Suivez-moi, leur dit-il, et non pas suis-moi. Dès le début, Simon, qui deviendra Pierre, est associé à un autre. Pour accomplir sa mission, Dieu a besoin des talents de tous, des talents conjugués, aussi modestes soient-ils, dans la diversité utile de chaque église chrétienne, comme dans cette communauté que nous formons, et dans laquelle, finalement, nous ne pouvons rien faire tout seul. Chacun doit entrevoir et recevoir cet appel dans la confiance pour marcher avec les autres à la suite du Christ. Chacun à sa place. Maintenant, tout de suite. Alors, lâchons nos lourds filets et partons à la pêche avec Jésus. Amen. Thank you.